Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Les effets du changement climatique s'amplifient. Il est essentiel donc d'intensifier les mesures d'adaptation pour limiter les dégâts et d'exploiter les opportunités potentielles. La COP28 a marqué un changement significatif dans l'orientation du financement du climat en partenariat et aussi en particulier dans le domaine des mesures d'adaptation. Les financements de l'adaptation par les pays développés doivent également nécessairement doubler d'ici 2025, tout comme pour les pays en voie de développement. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons pour ce premier numéro de la saison 2 de votre émission Durabilité, M. Ahmed Azira, président du Conseil scientifique, Association marocaine d'intelligence économique, docteur également d'État des sciences économiques. Bonjour à vous et merci, comme toujours, de répondre à notre invitation.
Bonjour à vous et à votre auditoire.
Alors, Monsieur Azirar, lors de la COP28, un agenda critique et de plus en plus pressant a donc été mis sous les projecteurs comme le financement du climat et les besoins financiers croissants pour les mesures d'adaptation. Quelle analyse en faites-vous ?
Bien, donc COP28, la problématique financière est celle qui a été la moins, disons, tranchée. Donc il y a eu un certain nombre de points sur lesquels il y a eu un accord ou un accord relatif. Donc comme la fin des énergies fossiles à terme avec cette période transitoire, donc basée sur le gaz notamment. Puis il y a eu le triplement des énergies renouvelables. Le doublement de la capacité de l'efficacité énergétique donc à l'échelle 2030. Et puis il y a aussi lié à ça donc parce que la problématique énergétique a dominé justement la COP28 et aussi un petit peu la consécration du nucléaire. Il y a aussi comme vous le dites donc un pas certainement vers le financement du coût du changement climatique et accessoirement de la résorption des inégalités défavorables aux pays en développement, mais il n'y a pas eu véritablement des décisions fermes. Alors, c'est pourquoi vous me demandez mon avis. Donc, est-ce qu'on doit voir le verre à moitié plein? Oui, en partie, si on considère donc la difficulté du sujet et la difficulté à réaliser un consensus sur une problématique où les intérêts sont très divergents. Alors non, parce que il y a la question des hydrocarbures n'est pas encore résolue. Donc, puisque le pétrole, comme vous le savez, continue le pic de production pétrolière n'est pas encore atteint. Et puis, il y a d'autres formes de pétrole qui sont encore exploitées, comme les schistes. On ne se concentre pas sur les plastiques, etc. Donc, le gaz aussi est épargné parce qu'il fait l'affaire des grands comme les États-Unis ou la Russie. Mais les PED, les pays en développement, aussi, parce que ça fait un peu ils sont coincés, puisque on a 800 millions de personnes qui n'ont pas encore d'électricité donc dans les pays en développement. Alors, donc, tout ça fait qu'il y a énormément de problématiques et le financement est aussi une problématique majeure. Alors, heureusement, donc, il y a eu déjà, on se souvient, il y a eu un forum à Paris avant la COP28 relative. Oh, c'est un forum dit Nord-Sud sur la problématique du financement. mais il n'a pas décidé, puisque laissant la COP 28 décider. Et là, la COP 28 a au moins, disons, l'avantage d'avoir souligné qu'il y a un fossé croissant de financement qui est estimé à quelque chose comme 7 500 milliards de dollars d'ici 2030 entre les besoins des pays en développement qui sont embourbés dans leurs dettes et ce qu'on leur promet, on leur donne comme aide. Donc, pour atteindre les objectifs de lutte contre le climat. Donc, c'est dire que la problématique reste posée et donc elle va encore se poser dans la prochaine COP qui aura lieu, je crois, en Azerbaïdjan.
Et cette adaptation également prônée, pour rester dans la même dynamique, par les membres de la COP, décrit un processus d'ajustement aux effets actuels et futurs du changement climatique pour, disent-ils, modérer les dommages, les minimiser ou tirer parti des opportunités qui peuvent se présenter. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, vous le dites bien. Donc, quand on ne peut pas fixer des objectifs ambitieux et des agendas précis, donc on s'en remet à des choses comme ça, donc modérer les dommages, minimiser les impacts, tirer parti des opportunités. C'est un peu arrangé ou disons un minimum. Donc, or la problématique, comme le disent la majorité des analystes, c'est qu'on est en train d'aller vers la catastrophe à une vitesse accrue. Il est difficile de s'en tenir au 1 degré 5, donc qui est dans le viseur. Et puis, bien entendu, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Donc, c'est pourquoi arrêter le changement climatique de manière nette requiert vraiment une mobilisation sérieuse et ferme de toute la planète. Sinon, on va juste batailler pour lutter contre les effets, sachant aussi que les effets climatiques, ce sont les pays qui sont les moins pollueurs qui en souffrent le plus. Et donc, et les pays créatifs, donc les pays innovateurs, technologiques et tout ça, c'est eux qui vont profiter encore plus des opportunités justement de ce changement climatique, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la Chine profite énormément en matière d'automobiles électriques, etc.
Justement, la Chine actuellement, qui reçoit d'ailleurs un sommet des pays africains également, ses partenaires, dans le cas de l'Afrique, pour en venir bien évidemment au continent, comment et sur quel schéma doit se faire cette politique d'investissement climatique hein?
Alors la réflexion, elle est dure, parce que là, vous faites bien, parce que la Commission économique africaine, donc de l'ONU, en train de réfléchir, il y a un futur débat donc, qui traite justement de cette problématique, qui va traiter de cette problématique du financement africain. L'Afrique, vous le savez, a un grand besoin de financement pour lutter contre les effets du changement et n'arrive pas à mobiliser les investissements mondiaux pourtant qui sont disponibles. Alors le cas de notre continent est beaucoup plus ardu que celui des autres émergents. Alors, en chiffres, donc, certaines estimations chiffrent le besoin à 2 800 milliards de dollars donc, par an d'ici 2030 pour opérer la transition climatique, donc pour arranger et protéger la population du climat donc, changeant. Or, par ailleurs, donc, les flux mondiaux de financement climatique sont là et on n'arrive pas à mobiliser. Alors, on sait aussi que les budgets, nos budgets publics, sont en difficulté. Il y a la dette monumentale. Les promesses d'aide promises ne sont pas là encore. Donc, et surtout, là où, à titre juste d'exemple, donc l'Afrique, la région la plus vulnérable au climat, et ne reçoit que 2% des investissements mondiaux dans les énergies propres. par exemple. Et les projections font des déficits de financement importants. Donc, il y a matière à faire donc, en Afrique. Il y a d'abord à clarifier donc, la stratégie des infrastructures qui doivent être des infrastructures éco-responsables, éco-compatibles. Et il faudrait aussi que l'on puisse, bien entendu, arranger les projets qui soient bancables. Chez nous, il faudrait aussi que les risques d'investissement pour le secteur privé soient contenus. Donc tout ça, il faut y agir si on veut attirer plus de financement, en particulier le financement privé.
Parlons du Maroc. Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors de la fête du trône, a mis l'accent sur bon nombre de projets à mettre en place pour lutter contre le changement climatique, notamment le stress hydrique, entre autres. Ce modèle d'investissement climatique pourrait-il, selon vous, être une solution endogène ?
Absolument, mais Sa Majesté le roi a de nouveau, donné l'alerte et a fixé un plan d'action précis et urgent. Donc le plan est multiforme. Donc et vous dites endogène, oui, il doit. C'est à nous d'agir, de trouver les financements et puis bien entendu de trouver la gouvernance idoine et puis également les moyens les plus rapides pour solutionner cette problématique. Alors la problématique de l'eau, comme vous le savez, est liée à celle de l'énergie et le Maroc agit à ce niveau. Donc au niveau du gaz, donc nous avons résolu la problématique assez rapidement. Les énergies renouvelables, nous y sommes, encore qu'il y a des problèmes. Puis l'hydrogène vert, donc on a lancé les projets, le financier est là. Et il faudrait mettre ce projet rapidement. Il y a des investissements, il y a un intérêt international et privé national pour l'hydrogène. Donc là, il y a énormément d'actions qui sont en cours. Je crois que nous sommes sur la bonne voie, encore que, naturellement, la problématique est très urgente et il faudrait naturellement qu'on s'y mette tous pour agir le plus rapidement possible. Donc il y a ces autoroutes aussi, de l'eau, donc tout ça est sur la voie. Voilà.
Et très rapidement aussi, c'est-à-dire donc que la solution pour lutter contre le changement climatique nécessite une politique économique tournée vers une collaboration publique-privée.
Absolument, donc forcément, atteindre les objectifs d'atténuation du changement climatique, donc il faudrait bien sûr que les États, que les financements multilatéraux soient là, que les pays pollueurs payent, mais il faudrait aussi que les investissements du secteur privé puissent être mobilisés. Alors, les besoins mondiaux de financement pour atténuer le changement climatique, qui sont très, très élevés, donc d'ici 2030, doivent être mobilisés. Donc, le partenariat public-privé est idoine pour, naturellement, participer à la solution de ces problèmes urgents.
Participer également à la solution de la durabilité de nos ressources, notre environnement, tel que prôné par Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais également prôné par le monde entier. Et merci encore à vous, Armen Azirar. Je rappelle donc que vous êtes président du conseil scientifique de l'association également marocaine d'intelligence économique et par ailleurs docteur d'état des sciences économiques. Toujours un plaisir d'échanger avec vous.
C'est l'IMIS, Institut marocain d'intelligence stratégique. Voilà.
Tout à fait.
Merci bien.
Merci encore, bien des choses à vous. Et également, merci à vous, chers amis auditeurs, de rester fidèles à la durabilité de cette confiance renouvelée dans votre émission Durabilité. Au plaisir.